Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la parentèle enchantée. Je suis Cynthia et je vous retrouve tous les premiers mercredis du mois à 11h pour une émission qui vous parle de parentalité sans vous donner l'impression d'être de mauvais parents. Avec moi en studio, Rémi, le papa.
Salut, c'est nous les parents de Lou et Zoé en vacances. Et oui, vacances qui arrivent toujours trop vite, trop lentement ou trop vite. Ouais, faites votre choix, hein, n'est-ce pas?
On rappelle qu'il est bien évident qu'il y a mille façons d'être parent. N'oubliez jamais, on est le meilleur parent possible pour ses enfants et souvent les plus indignes pour les autres.
Et ce mois-ci, on vous propose une émission pleine d'encouragement et d'ondes positives sur fond de mensonges parentaux.
Pour ma part, je tenterai de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Zoé quand elle se détache de son doudou.
Et Mamilo, tel le père Castor, reviendra nous conter des histoires. Mais d'abord, place aux brèves.
Ayant loupé plein d'événements le mois dernier, ces brèves vont prendre la forme d'agenda pour ce mois-ci.
Oui, tout à fait. La ludothèque et la médiathèque s'associent ainsi pour faire le plein de comptines, jeux de doigts et expériences ludiques.
Venez profiter d'un temps de jeu avec vos tout-petits. Ça se passe le mercredi 15 novembre de 10h à 12h à la médiathèque Camus.
La 6e édition du festival Lire Régulier, dédié à la danse et au vivant, se tiendra à Bourg-en-Bresse du 1er au 18 novembre. Spectacles, stages, concerts, bals engagés sur les questions d'humanité et du vivant sont au programme.
Et le samedi 18 novembre, il y aura même une journée spéciale famille avec deux ateliers de danse parents-enfants à partir de 10h ou 14h. Une bonne occasion de bouger ensemble.
Renseignements et inscriptions auprès de la compagnie Passarose, dont j'ai croisé, il me semble, une danseuse au temps des noyaux il n'y a pas si longtemps, Cynthia.
Aha. Et après un petit tour de piste, vous pourriez finir la journée par la Nuit de la Jungle dans le cadre de l'événement national de la Nuit du Cirque.
C'est organisé par l'ETAC, l'École du Cirque Burgienne. C'est toujours le 18 novembre et ça se passe au COSEC Favier à partir de 18h.
Une soirée festive pour célébrer l'art de la jungle avec des défis jonglés, des jongleurs de feu et une parade des chasses en collaboration avec la compagnie des Kidam.
Les Kidam, c'est les grands chevaux lumineux qu'on avait déjà vus plusieurs fois.
Bon, oui, c'est semble magnifique.
Bien, c'est magnifique. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'apprendre à jongler avec des balles diabolo, des bâtons du diable. Bref, venez nombreux et nous, on y sera très certainement le 18 novembre.
Salut les jeunes! Pauline et Mademoiselle Claire de Lune. Pauline, la petite rouquine, avait un vilain défaut. Elle mentait. Elle mentait tout le temps. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. La réalité ne lui paraissait jamais assez belle. Alors, elle la transformait, la déguisait, et très souvent même, elle l'inventait complètement. Dans son école, lorsqu'un enfant avait ce genre de problème, le directeur l'envoyait quelque temps dans la classe de Mademoiselle Claire de Lune. À première vue, à part son drôle de nom, cette fameuse Claire de Lune n'avait rien d'extraordinaire, vraiment rien, et pourtant, au moment où le petit Mathieu prétendit avoir oublié son cahier de devoirs à la maison, le visage de Claire de Lune changea complètement. Il devint dur et effrayant. Ses yeux lancèrent des éclairs. Puis une impressionnante musique de Beethoven, surgit de nulle part, éclata. Alors, tout ce qui se trouvait dans le cartable de Mathieu partit en vol plané. Le petit garçon, tout rouge de honte, avoua. « Ce n'est pas vrai. J'ai menti. Je n'ai pas fait mon devoir. » À ces mots, Mademoiselle Claire de Lune retrouva un visage charmant. Elle se frotta le bout du nez et aussitôt le contenu du cartable, comme aspiré par un courant d'air, retourna d'où il venait. « Mais ce n'est pas une maîtresse, c'est une sorcière. Ça alors ?» pensa Pauline. Aussi, le soir, à la maison, elle raconta exactement ce qui s'était passé. Seulement, voilà, ses parents avaient tellement l'habitude de l'entendre dire n'importe quoi qu'ils ne crurent pas un mot de son histoire de fée sorcière. Jamais encore Pauline n'avait été aussi déçue. Le deuxième jour, à la récréation, Pauline, qui dans son coin s'ennuyait un peu, voulut attirer l'attention de ses camarades. « Dans mon ancienne classe, en calcul, je n'avais que des 20. » À peine avait-elle terminé sa phrase que ses cheveux se dressèrent, durs et raides, comme les piquants d'un porc-épic. Affolée, le souffle coupé par la surprise, elle bafouilla. « Non, je voulais dire, je n'avais pas que des 20. J'aurais pu, hein, mais j'ai horreur du calcul. » et aussitôt, ses cheveux retombèrent sur ses épaules. Alors, entre deux sursauts, Pauline avoua. « On m'a changé de classe parce que je suis une menteuse. » Et aussitôt, la maîtresse sorcière disparut. Lorsqu'elle rentra à la maison le soir, elle entendit son papa jouer du piano. Pendant le dîner, elle demanda comment cette musique s'appelait. Son père, en souriant, lui répondit « La sonate au clair de lune, ma chérie. » Pauline haussa les épaules. Elle trouva cette plaisanterie vexante. Lorsqu'elle partit se coucher, elle passa devant le piano et jeta un coup d'œil sur la partition. « Sonate au clair de lune de Beethoven. Oh, cette musique existe pour de vrai ? Ça alors ?» Le troisième jour, elle aurait tout donné pour ne pas être obligée de retourner à l'école. Cette école que maintenant elle détestait. Mais ce jour-là, une agréable surprise l'attendait. Claire de Lune demanda à chaque élève de raconter une histoire de son invention. Quand arriva le tour de Pauline, ses camarades se poussèrent du coude en ricanant. Mais dès qu'elle commença, le silence s'installa. Non seulement ce qu'elle racontait les passionnait, mais en plus, les mots qu'elle prononçait sortaient tout écrits de sa bouche. Et les lettres, après s'être promenées dans l'air à travers la classe, allaient s'engouffrer une par une dans le tiroir du bureau de la maîtresse. Quand Pauline eut terminé, Claire de Lune lui fit un éblouissant sourire de fée. « Tu as vraiment beaucoup d'imagination, bravo! Ton histoire aujourd'hui est la plus belle! Approche, viens chercher ton cadeau !» Et de son tiroir, elle sortit un livre, très très beau. Pauline, tout émue, l'ouvrit en tremblant. Et que découvrit-elle à l'intérieur ? Tous les mots de son histoire sortis de sa bouche tout à l'heure étaient écrits là, imprimés, comme dans un vrai livre. Ça alors ! Elle tourna les autres pages. Elles étaient complètement blanches. Elle regarda sa maîtresse, attendant d'elle une explication. « À toi de les remplir maintenant. Tu pourras y écrire tout ce qui se passe par la tête, tout, tes idées les plus extraordinaires ainsi que tes rêves les plus fous. » Le soir, dans son lit, Pauline repensa à la journée exceptionnelle qu'elle venait de vivre. Claire de Lune lui avait fait comprendre une chose très importante en lui offrant ce livre. En vérité, il n'y a pas tellement de différence entre mentir et inventer. Il suffit de bien dire « C'est une histoire que je vais vous raconter. » Et là, tout le monde est content. Moi, quand je serai grande, je serai écrivain. Et plus personne ne se moquera de moi. Tout excitée par ce projet, elle avait du mal à trouver le sommeil. Quand la sonate au clair de lune lui arriva jusqu'aux oreilles.
Ah, le mensonge. En tant que parent, trouver la bonne posture est toujours délicat. Comment faire grandir nos petits sans qu'ils aient besoin plus tard d'années de psychanalyse pour se remettre de nos erreurs? On est toujours à osciller entre ce qu'il faudrait dire et ce qu'il faudrait éviter. Bon, déjà à la maison, pas de paroles sexistes sur fond de rose pour les filles et bleu pour les garçons. Je pense que là-dessus, on n'est pas si mauvais. Et que nos filles se sentiront le droit d'être absolument tout ce qu'elles voudront être sans distinction due à leur genre. Oui, mais il n'y a pas que ça à gérer pour bien faire pousser nos enfants. Notre but en tant que parents, c'est de les laisser s'épanouir tels qu'elles sont et de les soutenir dans ce qui leur plaît et ce qui les motive. Valoriser toujours et encore, quitte à parfois mentir un peu. Ou le fameux « il est magnifique ton dessin, ma chérie » en tant que commentaire d'une croûte informe et monochrome. Bah oui, les parents, ça ment parfois. Pas pour tromper son enfant, bien sûr, hein, mais plutôt pour l'encourager, le pousser à continuer pour s'améliorer, l'emmener à persévérer pour apprendre. Si je prends mon exemple, j'ai cru très longtemps que je n'étais pas quelqu'un de manuel. Mais oui, pas que l'on me l'ait répété petite, enfin, j'ai pas l'impression, mais je me rappelle que je faisais des crises monumentales devant un trait de dessin qui n'allait pas et que ce dit dessin finissait souvent déchiré, froissé et à la poubelle. Or, Lou faisait exactement la même chose. La voir reproduire ce comportement lointain de ma propre enfance m'a tout d'abord énervée. Puis, arrêtant de fonctionner en miroir, je me suis questionnée sur comment l'accompagner pour qu'elle ne dévalorise pas ce qu'elle avait fait et qu'elle ne se retrouve pas à 30 ans à découvrir qu'en fait, elle est capable de faire des jolies choses de ses mains. Alors, j'ai valorisé. Oui, même le dessin qui n'était pas franchement beau, même celui qui avait bavé et qu'elle avait colorié tout en noir. C'était pour moi d'autant plus dur que, vous l'aurez compris, je suis quelque peu perfectionniste quand il s'agit de moi.
Non, pas du tout, t'es un peu chiante plutôt, non ?
Non. Bon, j'ai valorisé donc. Mais je me soigne et j'essaye de ne pas devenir l'une de ces mères qui, devant une activité manuelle, fait tout à la place de son enfant pour que ce soit beau, puis le poste sur Instagram en criant au génie de son petit. Le pauvre enfant attendant sagement d'avoir le droit de toucher un bout de pâte à modeler.
Ouais, enfin, je sais même pas si ça marcherait ça avec nos filles. Hein.
Pas sûr. Ouais. L'idée, en tout cas, c'est de ne pas tomber dans l'encouragement poussif qui, au lieu de valoriser, viendrait à mettre une pression néfaste à l'enfant. C'est là où la frontière est mince et parfois dure à percevoir.
On le verra d'ailleurs juste après.
Car oui, il y a une différence entre dire « ton dessin est beau, ma chérie » et dire « c'est beau, mais... » « Mais quoi d'ailleurs ?»« Bah, mais tu aurais pu mettre plus de couleurs, mais tu as dépassé ici, mais je n'aurais pas fait comme ça. » On est forcément tenté de dire ce genre de choses, car en bon parent, on a envie que notre enfant s'améliore et grandisse. C'est comme plus tard le fameux « tu as eu 15, c'est bien, mais pourquoi d'autres ont eu plus dans ta classe ?» Bon, du coup, le c'est bien devient un équivalent de pas assez. Bien, mais insuffisant. Bien, mais peut mieux faire. Une valorisation en demi-teinte qui ne remplit jamais son objectif en totalité. Pour revenir à l'exemple plus basique du dessin, je pense qu'il faut savoir parfois dire « c'est beau » sans autre commentaire. Mais qu'il faut aussi pouvoir accompagner son enfant si celui-ci le demande. C'est finalement souvent nos enfants qui savent le mieux ce qu'il leur faut. Lou, par exemple, est souvent dans le simple jeu quand elle dessine, sans autre objectif artistique ou de faire du beau. Mais le jour où elle me demandera comment faire mieux, je serai là aussi. Mais seulement si elle le demande et qu'elle en a envie. Eh oui. Suivez les envies de vos enfants, faites-leur confiance sans toujours vous fier à vos expériences personnelles. Mais ça demande parfois de faire bouger les lignes de nos préjugés aussi. Et j'en ai fait l'expérience récemment. Allez, je vous raconte. Lou nous parlait de faire de la danse depuis 2 ans déjà. Et je l'avoue, j'étais très réticente. Pourquoi ? Parce que dans mon imaginaire, à moi, le milieu de la danse est compétitif et élitiste, et que je n'avais justement pas envie, par rapport à tout ce que je viens de vous dire avant, qu'on demande à ma petite fille de 5 ans d'être la meilleure ou qu'elle se compare aux autres petites filles en se disant qu'elle n'est pas assez. Et puis, j'ai lâché. Je lui ai fait confiance et elle a commencé la danse cette année. Eh bien, loin de mes préjugés d'adulte, elle s'éclate. Elle danse sans se préoccuper de savoir si une autre petite fille fait mieux ou moins bien qu'elle. Elle danse pour elle, elle s'éclate. Et j'aurais bien été bête de la priver de ça.
D'ailleurs, la première séance n'a pas été si facile que ça, hein, mais c'est moi qui ai dû l'emmener. Et elle voulait pas. Et je pense qu'on lui a peut-être mis une pression aussi sans s'en rendre compte,
hein,
de cette attendue qui n'existait pas au final.
C'est possible. Comme quoi, on se plante aussi, hein. On fait des émissions, mais ne vous trompez pas, on se plante largement. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut parfois se mettre son cerveau d'adulte en pause pour se mettre à hauteur d'enfant. Nos envies ne sont pas les leurs et nos échecs non plus d'ailleurs. Arrêtez de penser à leur place et leur laisser la place d'explorer leurs compétences sans pression ni a priori, c'est leur laisser finalement l'occasion de tester, de se tromper et de s'épanouir au final.
Acte 1, scène 1, unité de temps, unité de lieu. La pièce durera toute ta vie, l'histoire se déroule sous tes yeux. Le rideau vient de s'ouvrir, toi tu soulèves les paupières. Tes parents gèrent la mise en scène, ta pièce démarre et ils sont fiers. Ils te souhaitent pas une tragédie, ils préfèrent que l'histoire soit drôle. C'est le théâtre de ta vie, c'est toi qui tiens le premier rôle. Tu regardes autour de toi les projecteurs, les premiers rangs, les gens qui te donnent la réplique et puis les autres, les figurants. Tes parents ont écrit le début, mais tu vas vite réaliser que pour la suite c'est entendu, tu vas devoir improviser. Et puis trouver les bons dialogues, dans ce premier acte tu es bavard. Ce ne sera pas une pièce d'auteur mais du théâtre de boulevard. Alors ton histoire défile sous la rumeur des spectateurs. Ton personnage perd l'innocence, t'essaies de rester à la hauteur. Face aux premières piques de l'intrigue, face aux premiers mauvais accords, derrière les apparences bien lisses, tu découvres l'enfer du décor. Au théâtre on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir 2 ou 3 bonnes critiques. Au Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation. Alors de cour à jardin, maintenant tu fais les 100 pas. Tu côtoies les bons comédiens, et puis à ceux que tu sens pas. On flirte avec le vaudeville, avec toutes ces portes qui claquent. Tu vois moins tes parents, ingratitude du deuxième acte. Tu l'as compris sur les planches, c'est la cour de création. Dans toutes les situations, tu dois faire preuve d'adaptation. Dans un monde où le prévisible perd souvent le contrôle, le bon comédien est celui qui sait jouer tous les rôles. Et c'est là qu'intervient celle qui donne du sens à ta pièce. Sous les feux de la rampe, ta prétendante met tes attentes en liesse. Tout prend de l'importance, c'est ce que ton monologue indique. Fini le théâtre de boulevard, tu tiens ta tragédie antique. Si tout va bien, l'amour donnera de nouveaux petits acteurs qui à leur tour joueront leurs pièces devant la foule des spectateurs. Tu mettras en scène leur début, t'as compris les règles du pacte, avant de retrouver l'énergie de t'atteler à ton troisième acte. Du public, on voit tes doutes, on voit tes gouttes, on voit la sueur, tes déboires, tes trous de mémoire, tes espoirs et tes lueurs. Les second rôles apprécient, c'est respectable et vibrant. Les spectateurs vibrent aussi, c'est du spectacle vivant. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Ça tourne autour de sentiments, tu sens, tu mens, tu vis, tu veux. Y'a que le décor et les costumes qui sont amenés à changer. Ça dépend des moyens de la prod, on n'a pas tous les mêmes budgets. Moi j'ai grandi au cœur d'un beau théâtre occidental, loin des troupes du tiers-monde et des acteurs qui ont la dalle. Et j'aime le théâtre de ces pays où la scène est à même le ciel, où les intrigues se resserrent souvent autour des valeurs essentielles. À quelques exceptions près, toutes les pièces se ressemblent un peu. Y'a les grandes scènes de comédie et les bouts de drame contagieux. Et puis à tous ces imprévus, ces fous rires, ces dérapages. Moi je n'aime ce théâtre que quand l'intrigue sort de la page. Sois patient, reste en coulisses quand résonnent les coups de tonnerre. Et quand la scène est compliquée, appuie-toi sur tes partenaires. Ils te seront indispensables pour atteindre tes objectifs. N'oublie jamais cet adjectif, théâtre est un art collectif. À toi d'observer dans l'ombre quand on t'attend dans la lumière. À toi de prendre le devant de la scène quand le scénario te prévoit derrière. Écorche un peu ce qui est écrit, la vie aura un autre parfum. Ta pièce aura une plus belle fin, écoute une dernière fois ce refrain. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes et à l'heure de saluer le public, que tu aies le privilège d'avoir deux ou trois bonnes critiques. Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. L'histoire peut être riche, faut pas que tu traînes, faut pas que tu triches. Pour t'offrir de l'ivresse, du vertige, de l'émotion. Et qu'à la fin, les gens se lèvent pour ta dernière ovation.
Au théâtre ce soir, Grand Corps Malade, mais vous l'avez reconnu certainement. Tiens, d'ailleurs, si un jour nos filles veulent faire du théâtre, hein, pourquoi pas, n'est-ce pas? En tout cas, c'est vrai que face à un dessin, on ne sait jamais quoi dire. Et le plus naturel qui sort, eh bien, c'est le fameux « Oh, c'est beau », même si ça l'est pas. Et alors, donc, il y a une réponse parfaite. Que dit la littérature scientifique sur le sujet? Je m'y suis un peu penché pour tout dire. Il y a tout, comme avis. Peut-être en fait parce que les chercheurs en pédagogie ont eux-mêmes des enfants. Alors en fait, oui, il faut dire que le dessin de son enfant est beau. Mais en le disant, on dépose alors une petite, voire une grosse charge sur les épaules de notre enfant, qui va alors chercher ensuite à faire un dessin qui sera à nouveau beau et qui va plaire à ses parents. On va mettre une croix dans la case, beau, je veux que ce soit beau. Oui, oui, oui. Sauf que le dessin, c'est une activité créative qui n'a pas pour but de plaire à autrui, mais de permettre de s'exprimer. Le « c'est beau », ça va devenir un jugement qui va altérer alors la capacité d'expression de son enfant. Alors, en vrai, on peut se poser la question à nous-mêmes. Hein. Quand notre enfant vient nous voir parce que son dessin est fini, qu'est-ce qu'on va lui dire? Quel est notre but en lui donnant une réponse? Or oui, s'en débarrasser au plus vite, parce que là, on coupe les oignons, après, il faut cuire les pommes de terre, et vraiment, on n'a pas le temps? Oui, c'est ça, on veut s'en débarrasser. Non, on veut fabriquer un être des plus épanouis dans une société en ébullition. C'est bien ça, Cynthia, hein?
Oui, oui.
Hein, Lou vient de voir, c'est...
Bien sûr,
hein, voilà.
Évidemment.
Bon. Alors, la bonne réponse, ce serait évidemment de se dire que c'est ça, oui. On veut fabriquer des êtres des plus épanouis dans une société en ébullition, où ça merde de tous les côtés. Sauf que quand la réalité, elle nous rattrape, on peut se le dire, ben pour nous, il s'agit plutôt de répondre juste un truc pour le parent à 100 à l'heure qu'on est. Bah ouais, parce que sinon, si on lui dit que c'est beau, oui, 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 on va continuer sur notre lancée, on va se retrouver dans le canapé à faire une course de tortue ou à lire un énième choupi pendant que le plat de ce soir, il va attendre. Bah, alors en préparant cette émission, comme souvent, on se met aussi à réfléchir. Hein. Alors, que doit-on dire, Cynthia? Tu voudrais bien le savoir, hein?
C'est moche, non?
Non, c'est pas non, ça. Non, on dit pas. Okay. Ne rien dire?
Ah.
Bah. Bah écoute, en fait, pour Arnaud Stern, un pédagogue spécialisé dans l'expression, l'absence de commentaires, ça va retarder la réalisation de dessins figuratifs, c'est-à-dire qui représentent quelque chose, une maison, une fleur, un soleil.
Ouais, enfin, quand Lou, elle veut savoir si son dessin est beau, tant que tu lui as pas répondu, elle te le répétera 10 fois.
Oui, oui, mais c'est peut-être parce qu'elle est habituée aussi à ce qu'on lui dit « Ah, c'est beau », il y a peut-être aussi une espèce de conditionnement. En fait, non. Ne rien dire, pour Arnaud Stern, justement, ça retarde le fait de faire des dessins précis, le soleil. Mais c'est pas si mauvais, en fait, quand on va au musée. On en voit bien des tableaux qui sont pas figuratifs. C'est pas négatif, en fait, de rien faire de figuratif. C'est justement laisser l'expression de l'enfant ne pas s'enfermer dans des cases préétablies. Pourquoi est-ce que l'enfant, il aurait intérêt à réaliser une maison ou un soleil? En fait, c'est juste parce que nous, on s'attend à voir ce dessin en particulier. Quand on a le dessin de l'enfant, on s'attend à voir quelque chose qui représente quelque chose. Si ce n'est pas le cas, on dit juste « Ah oui, c'est beau ». Et sinon, on va dire « Oh, la belle maison, oh, le beau soleil ». Alors ainsi, en mettant des mots sur ce que fait l'enfant, on le conditionne alors à reproduire les mêmes créations la fois suivante. On va en fait brider son processus d'imaginaire qui se contentera alors d'une création stéréotypée. Alors l'idée serait peut-être d'être dans l'encouragement du geste. « Oh, j'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies ». On note en fait le geste que l'enfant a fait. Il a été chercher un crayon, il l'a fait. C'est ça qu'on encourage. Ou bien aller sur le domaine des émotions, mais sans être dans le jugement. Tiens, ton dessin me rend très joyeux. Quand notre fille vient nous montrer ses dessins, c'est en fait parce qu'elle a de la fierté. Et il s'agit alors de renforcer sa fierté pour s'inscrire dans un cercle vertueux. Puisqu'elle est fière de sa création, en lui disant que nous aussi nous sommes fiers, et ben on l'encourage alors à reprendre le crayon la prochaine fois pour refaire un autre dessin. Alors ouais. Alors nous, c'est encore plus compliqué, parce que bon, Lou, elle n'a jamais eu réellement de penchant pour le dessin. Hein. Elle a peut-être usé davantage de feuilles, de crayons que de feuilles, justement. Elle préfère utiliser ses feutres pour écrire des mots que pour être justement dans la représentation imagée. Alors, peut-être que c'est de notre faute, on ne l'a peut-être pas assez amené justement vers ce processus créatif en l'encourageant. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'à 6 ans, tout est joué. Hein. Parce que l'enfant reçoit les messages de ses parents, mais aussi finalement l'intentionnalité qu'il y a derrière. Zoé, au même âge, elle dessine davantage que sa sœur. La table du salon prend cher d'ailleurs en ce moment, hein, Cynthia. À l'issue d'un dessin, nous devons nous retenir de ne pas nous contenter sur l'état de cette table, hein, mais de se concentrer plutôt sur le dessin, même si pour l'instant il ressemble, on va le dire, à un horrible grabouille. Mais face à ce grabouille, il y a heureusement sa sœur, qui, elle, a peut-être une réaction des plus naturelles, en étant super fière de sa Zoé, qui elle aussi dessine et s'exprime.
J'ai du papier, un crayon neuf pour dessiner la route. Sur la route, je fais un bœuf, la vache, je l'ajoute. La pluie, s'il a le jardin. Au jardin, 15 points, 15 pommes, le doux festin que la pluie n'atteint point. J'ai fait le bœuf couleur de miel, la route en orangé, mais les nuages dans le ciel, j'ai dû les arranger. Je les perce, je les lacère d'une flèche et soudain, on voit éclater le tonnerre et la foudre au jardin. Que le vent s'amplifie. Avec ce seul trait que je trace, la pluie entre au jardin. Mais brusquement, mon crayon casse, l'encre sèche soudain. Sur la table, posant la chaise, je suis monté enfin. bien que raté d'une punaise, j'accroche mon dessin.
Et si Zoé pouvait parler, elle vous dirait sûrement. Moi, en ce moment, j'oublie tout le temps mon baba. Baba ? Mais si, vous savez, la petite bête poilue qui me suit partout depuis ma naissance. Non, vous voyez toujours pas ? Baba, c'est mon doudou à moi. C'est ma sœur qui me l'a choisi quand je suis née et depuis ce jour, il ne m'a quasi jamais quittée. Il était tout beau au début et tout doux avec un poil soyeux. C'est un lion, je crois bien. Bon, maintenant, il faut bien avouer qu'il ne ressemble plus à grand-chose et se rapproche plutôt d'une vieille serpillière toute rabougrie. Mais je l'aime quand même comme ça, moi, mon baba. Mon baba. Il ne faut pas lui en vouloir s'il n'est plus aussi flamboyant qu'avant. Vous savez, c'est qu'on en a vécu des aventures ensemble. Ça a toujours été un ami fidèle, toujours là pour me consoler ou me rassurer quand j'en avais besoin. Il n'a jamais protesté quand je le serrais trop fort, que je lui bavais dessus ou que je lui mâchouillais le nez. Il est toujours resté là, imperturbable, d'humeur égale, avec son sourire cousu de fil noir intact au premier jour. C'était presque devenu une prolongation de ma main. Je ne l'oubliais jamais, si tant est que ce soit possible, puisque de toute manière, du soir au matin, je ne le lâchais jamais. Comme un vieux couple, il y avait lui et moi, moi et lui, Zoé et Baba. Oui, mais voilà, quelque chose a changé. Comme si petit à petit, j'avais moins besoin de lui pour me sentir bien. Comme si j'étais d'un coup capable de vivre sans lui. Alors oui, je l'avoue, il m'arrive de le laisser tomber et de le poser le temps d'un jeu, d'une balade ou d'une demi-journée à la crèche. Et puis du coup, il m'arrive même de l'oublier parfois quelque part. Oh, ne me blâmez pas, je m'en rends toujours compte à un moment donné quand je suis triste ou que je dois aller au dodo. Parce qu'alors, j'ai de nouveaux besoins de mon compagnon pour plonger mon nez dans ses poils râpeux et sentir son odeur familière qui me rassure tant. Il paraît que quand on grandit, on abandonne progressivement nos jouets d'enfance. Mais mon baba, promis juré, même s'il prendra sa retraite un jour prochain, il aura toujours une petite place réservée dans mon lit et dans mon cœur. Baba, c'est mon doudou, à moi.
Allô, bébé ?
Ici papa. Coucou les filles, c'est l'heure. L'heure de quoi ? Ben, l'heure de monter dans sa chambre, évidemment. Petit rituel depuis quelques jours après l'école. Ben ouais, Lou, t'as des devoirs que t'es toute fière de faire. Enfin, ça dépend des jours. Zoé, tu montes avec nous ? Oui, je sais, monter les escaliers est un jeu à part entière. On allume la lumière ? Non, je veux pas la lumière. Si, tu veux la lumière, mais c'est toi. Non, c'est Lou qui met la lumière. Pas celle-ci. Ah, tu préfères que je te porte dans les escaliers ? Non. Bon, Lou, tu t'installes, hein, déjà. Hein. Tu nous laisses avec ta sœur, Zoé ? Oui. Alors, d'abord, l'agenda, signer le fichier de maths. Bon. Et c'est pas mal, Lou. C'est tout juste en maths. Et t'as pris ton temps pour travailler, c'est bien ça. Tu peux être fier de ton travail, c'est très bien. Et je vois même que t'as fait des efforts pour écrire. Et tu continues, hein. Oui, Zoé, tu peux aussi dire bravo à ta sœur. Non, Zoé, je vais pas te lire l'histoire tout de suite. Pour l'instant, c'est Lou qui va me faire la lecture. Alors, Lou. Si j'étais, ça nous donne quoi ? Oui, Si j'étais, c'est un album de littérature jeunesse qui est le support d'apprentissage et qui permet, en apprenant à lire, de découvrir cet album bien sympa. Oui, je sais que ça te plaît de lire, Lou, mais lis, ne devine pas ce qui est écrit. Voilà, il faut persévérer, tu vas réussir. Oui, ce soir encore, on lira quelques mots pendant l'histoire du soir. Comment, Zoé ? T'as entendu que Lou a fini et tu veux aussi une histoire ? Ah, il y a maman qui arrive. Je crois que tu vas l'avoir, ton histoire. Allez, tu vas choisir quoi ? Choupi ou le coffret à bisous ? Quoi, Lou ? Tu veux faire aussi un jeu avec moi ? Allez, va pour la course de tortue. Mais attends, d'abord, il est temps de quitter nos auditeurs et auditrices et de les embrasser.
C'était Rémi et Cynthia, la parentèle enchantée sur Radio B 90 FM. On se donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, retrouvez-nous en podcast sur radio-b.fr.
Ou sur notre page Facebook en tapant simplement La parentèle enchantée. À la prochaine!
Bisous!